Vous écoutez France Culture.
Comme chaque vendredi, Le Monde selon Hubert Vidrine. Bonjour Hubert Vidrine.
Bonjour.
Alors, suite au scrutin européen de dimanche dernier, stupeur et tremblement, beaucoup de réactions, de commentaires. Le rêve européen est-il passé? Et quelle est votre analyse et votre décryptage de ce moment d'actualité, Hubert Vidrine?
Oui, je crois que c'est intéressant de revenir à ce vote et surtout aux réactions au vote. Il y a d'autres sujets, mais peut-être...
Et vous regardez Benoît Bouscarel en disant ça?
Oui, parce qu'il vient d'en parler. Et on reviendra sur d'autres sujets, peut-être par exemple, il y a eu un discours d'Obama très intéressant sur quelle est la politique étrangère américaine, les interventions qu'il faut mener ou pas. Mais là, parlons de l'Europe. Donc moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que le raisonnement en pourcentage, on raisonne toujours en pourcentage maintenant, hein, plus qu'en voix, dévie un petit peu l'analyse, à mon sens. Par exemple, en France, il y a 44 millions d'électeurs maintenant. Sur 65 millions d'habitants, 44 millions d'électeurs. Aux européennes en 2014, donc celle-ci, le Front National a obtenu 4 700 000. Jean-Marie Le Pen en 2002 avait obtenu 4 800 000, c'est-à-dire plus. Marine Le Pen avait obtenu en 2012 6 400 000. Donc c'est nettement en dessous. Donc on ne peut pas dire en termes de chiffres, en termes de combien de gens ont été votés Front National, qu'il y a une poussée. Énorme. Ce n'est que la cinquième meilleure performance du Front National, en voix, hein, pas en pourcentage. Quand vous êtes à un taux d'abstention qui atteint celui qu'on a connu, 56,5, ce qui est plutôt un peu plus faible que la fois d'avant, c'est très élevé, hein, mais un peu plus faible que les 59,37, il est évident qu'on voit beaucoup plus les votes extrêmes, et ce sont les gens très déterminés ou très furieux, ou qui veulent protester, ou qui veulent provoquer une réaction... d'énervement ou d'inquiétude, ou bouleverser les commentateurs, c'est ceux-là qui vont voter en fait. Les autres ne votent pas, comme vous l'avez rappelé.
Orphelin, disait hier Régis Debray.
Orphelin, c'est même... oui, alors il y a des orphelins, les désespérés de la politique. Ils ne cherchent même plus à protester par le vote, en fait. À ce moment-là, ils deviennent abstentionnistes, ça devient ce que vous rappeliez il y a un instant, c'est-à-dire le premier parti de France aux européennes, en tout cas, et le premier parti d'Europe de loin. Donc c'est important. Mais évidemment, dès qu'on dit ça, certains analystes disent « attention, c'est du relativisme ». Mais je ne pense pas que le fait de revenir aux faits soit du relativisme, il faut simplement faire une analyse rigoureuse. Bon, ce qui était étonnant aussi, donc, pas étonnant, mais c'est le fait que tellement de gens aient paru surpris alors que c'était un résultat annoncé. En gros, depuis des semaines, on en avait parlé d'ailleurs, à l'avance. Triomphalisme du Front National, mais tout à fait exagéré, si on a en tête ce que je viens de rappeler. Mais la plupart des autres entrent dans cette logique. C'est un bond d'avant, c'est le premier parti, c'est terrible. Or, évidemment, ceux qui s'en inquiètent vraiment et qui voulaient diaboliser, pour stigmatiser, pour excommunier, quoi, en quelque sorte, et qui sont sur cette ligne depuis des décennies, sont épouvantés parce que ça ne marche pas. Donc ils n'arrivent pas à reconnaître que la diabolisation ne marche pas, ou la dénonciation, y compris avec les comparaisons les plus balourdes d'années 30 et compagnie. Donc ils ne savent pas quoi faire, en fait. Ils ne savent pas quoi faire. Donc on voit les mêmes réactions. En revanche, l'accablement justifié du PS et de l'UMP, bon, ça, c'est pas étonnant. Et après une campagne européiste, enfin de la part des européistes, qui était comme d'habitude inefficace, avec tous les thèmes soit grandiloquents, soit gnangnan, il y a des lamentations également stériles. Donc il me semble que ça confirme, en l'amplifiant, le mécanisme qu'on a vu jouer dans cette campagne européenne et qu'on a vu jouer dans des référendums avant, et qui ne fonctionne pas. Donc la question est de savoir, est-ce que le système politique est capable de tirer les leçons d'une confirmation aussi forte après l'avoir ramené à ses justes proportions en raisonnant en voix et pas en pourcentage. Donc est-ce que le système européen dans son ensemble est capable d'entendre ce vote? Ou est-ce qu'il va continuer, mécanisme européen, comme si de rien n'était? Comme on le voit à peu près après chaque élection européenne ou après des référendums, quand les gens votent mal, on fait passer les textes d'une autre façon, les peuples qui votent mal, on les fait revoter. Donc est-ce que le mécanisme européen dans son ensemble est capable d'intégrer ça?
Mais est-ce que, au-delà de la question du vote national, vous n'êtes pas sûr, et est-ce qu'il n'y a pas plus profondément quelque chose qui est non pas une défiance, mais une désillusion, hein, le fameux rêve européen, d'ailleurs aurait-il existé? Il a existé dans
Il a existé dans une petite minorité,
Mais aujourd'hui,
Ça n'a jamais fonctionné sur la base du rêve. Les débats à l'époque du traité de Rome, c'était pas sur la base du rêve. L'affaire de la COD, personne n'y comprenait rien, il s'est oublié. Et la relance après 84, c'est pas un rêve, sauf dans certains milieux économiques ou dans des milieux médiatiques ou des petits groupes très, très, très convaincus. Donc c'est pas la question du rêve. La question est celle de la désaffection de l'immense majorité des votants. Je crois qu'on en a déjà parlé par rapport à une petite minorité qui était européiste, mais qui ne sait plus quoi dire maintenant parce que l'européisme ne fonctionne pas. Et il est totalement minoritaire en termes de voix, c'est même impossible à mesurer. Et même donc les campagnes à l'avance, tout ce qui est grandiloquent, tout ce qui est l'injonction d'avoir à voter bien parce que l'Europe finance des autoroutes ou je ne sais quoi, ça ne fonctionne pas. La stigmatisation de ceux qui votent mal, ça ne fonctionne pas. Donc on a les mêmes lamentations qui sont fascinantes parce que ce sont toujours les mêmes en fait. Et en réalité, je me demande si la seule façon de répondre à ça dans toute l'Europe, hein, parce qu'il y a une montée des votes soit anti-européens, soit protestataires, soit sceptiques, soit abstentionnistes partout, plus ou moins, hein, beaucoup moins en Allemagne par exemple, quand même partout ailleurs. Est-ce que la seule façon de répondre, ce ne serait pas une combinaison de ce que dit Cameron et de ce que dit François Hollande ? François Hollande dit, je crois à juste titre, qu'il faut réorienter, disons, la politique économique dans la zone euro pour qu'elle soit plus favorable à une croissance qui serait combinée avec la recherche de l'assainissement des finances publiques quand même, mais peut-être à un rythme différent. Et Cameron dit de son côté, le système européen est trop intrusif, en fait. Et il me semble que c'est la
combinaison des deux,
même si on ne songe pas spontanément associer les deux, qui peut-être sera en mesure de lutter contre le sentiment de dépossession et d'aspiration que ressentent les citoyens européens.
Et vous faites quoi d'Angela Merkel dans l'histoire, pour conclure ?
Il ne faudrait pas qu'elle soit l'arbitre de l'équilibre, vous voyez.
C'est à ça que ça ressemble pour l'instant.
Non, ça peut se concevoir, justement, avant qu'elle ait le dernier mot.
Le monde selon Hubert Védrine, à retrouver, bien sûr, et à faire à suivre, à retrouver sur franceculture.fr.